la réalisation de la réanimation cardio-pulmonaire, compression thoracique continue avec ou sans ventilation artificielle, et la réanimation cardio-pulmonaire où les compressions sont discontinues et où s'intègre effectivement de la ventilation artificielle au cours de l'arrêt effectivement de la compression thoracique. Donc effectivement, depuis quelques années maintenant, on sait que la réanimation cardio-pulmonaire améliore de façon spectaculaire la survie des patients, d'autant qu'elle est réalisée très précocement et qu'actuellement, il y a une façon de faire de plus en plus commune, qui est de réaliser uniquement des compressions thoraciques ou de recommander que des compressions thoraciques dès le début de la réanimation. Effectivement, c'est effectivement recommandé, mais pourtant, on n'avait pas trop de preuves scientifiques ou tout au moins pas de revues qui avaient bien analysé ceci. C'est pour ça que la Cochrane a décidé de faire une revue sur ces techniques de réanimation. D'accord. Donc ces techniques de réanimation, comme d'habitude, donc il y a une question PICO qui a été posée, elle porte sur les arrêts cardio-respiratoires qui sont d'origine extra-hospitalière et d'origine non-asphyxique, c'est-à-dire qu'ont été éliminés les arrêts cardio-respiratoires, par exemple secondaires aux noyades, obstructions aiguës de voies aériennes ou traumatiques. Et l'intervention consiste à réaliser des compressions thoraciques qui sont continues, c'est-à-dire sans s'arrêter, soit elles ne sont pas associées à des ventilations artificielles, et ça c'est plus particulièrement pour le grand public qui n'est pas formé à la réanimation cardio-pulmonaire, comme on va le voir, soit les personnes peuvent réaliser de la ventilation artificielle en même temps que les compressions thoraciques, et ça c'est plutôt les professionnels du secours qui réalisent cette technique-là. Mais ça c'est donc l'intervention qui a été analysée par cette revue Cochrane. Et la comparaison, eh bien, c'est la réanimation cardio-pulmonaire, j'allais dire traditionnelle, qui consiste à faire des compressions thoraciques et à les interrompre régulièrement pour insuffler. Deux façons de faire. La recommandation dont 2005 qui précisait qu'il fallait faire 15 compressions pour deux insufflations, alors qu'en 2010, on a fait 30 compressions pour deux insufflations. Et c'est vrai que dans cette revue, il y a les deux parties qui sont analysées. En ce qui concerne...
Il y a les deux parties qui sont analysées, non pas qu'on réactualise le 15-2, mais... pour avoir suffisamment d'articles, je pense, et avoir une revue
tout à fait.
Puis comme importante et pouvoir faire une méta-analyse et suffisamment de data, il a fallu associer les
deux types de données.
Ça rentrera dans la discussion après, je présume.
Voilà, tout à fait. Ensuite, en ce qui concerne les outcomes, c'est-à-dire les critères de jugement, on a d'une part, bien sûr, la sortie vivante de l'hôpital, qui est un des critères qui est le plus facile à obtenir, l'arrivée vivant à l'hôpital, mais aussi la sortie de l'hôpital avec un état neurologique satisfaisant. Il y avait aussi, donc, dans les critères secondaires, la survie à un an, mais comme on le verra, aucune donnée n'a pu être recueillie. Ce sont des études, classiquement pour la Cochrane, ce sont des études contrôlées randomisées ou non contrôlées randomisées, ou des études en groupe. Les études observationnelles ne font pas partie de cette revue. Si bien que lorsque l'on a récupéré sur plus de 7000 revues qui ont été donc dans un premier temps identifiées, en fait, il nous en a resté que 13 à la fin. Et sur ces 13, effectivement, on va en retenir en fait que 4. Les autres étant soit des revues observationnelles, soit déjà des revues de la littérature, soit des études sur mannequins, donc qui ont été exclues de l'analyse. Donc à la sortie, en fait, on va retrouver que 4 revues, 3 qui portent sur de la réanimation cardio-pulmonaire qui sont réalisées par les premiers témoins, qui sont guidés par téléphone. Et ça, c'est important parce que s'il n'y a pas cette guidance par téléphone, on ne peut pas faire une étude contrôlée randomisée, puisque toutes les autres études qui portent sur la même donnée se font, en fait, sont des études observationnelles, soit prospective, soit rétrospective. Et une étude seulement a été retenue, pour cette fois, les personnels de secours qui réalisent de la réanimation cardio-pulmonaire continue. Alors, lorsque l'on étudie cette fois les critères de jugement, on va d'abord parler des études qui portent sur les premiers témoins qui interviennent et qui ne sont pas formés et qui sont guidés par téléphone. 3 études ont été retenues, dont Alström en 2000, Réan en 2010 et Swenson en 2010. Le total, effectivement, porte sur plus de 1500 patients dans le groupe cohorte et 1500 patients dans le groupe intervention, dans le groupe comparaison. Donc, qui fait plus de 3000 patients, on s'aperçoit effectivement que si l'on étudie la survie à la sortie de l'hôpital que l'on retrouve dans ces 3 études, et ce qui permet donc d'effectuer une méta-analyse, on s'aperçoit, et ça c'est un petit peu original, c'est qu'aucune de ces études sont significatives ou ne donnent une faveur de l'un ou l'autre. C'est-à-dire que c'est plutôt effectivement en faveur des compressions thoraciques seules, ininterrompues. Pourtant, ces 3 études ne donnent pas de résultats significatifs. Et lorsque l'on fait la méta-analyse, eh bien là, on va retrouver un résultat significatif pour les compressions thoraciques seules en ce qui concerne les arrêts cardiaques extra-hospitaliers non asphyxiques qui sont réalisés par les premiers témoins guidés par téléphone.
Et c'est tout l'intérêt de ces méta-analyses.
Et c'est tout l'intérêt de ces méta-analyses. Et cela pousse aussi, et c'est donc ce thème-là qu'il faut éventuellement développer, à ce que les personnes qui réalisent des études, même s'ils n'ont pas des résultats qui sont significatifs, voire qui sont opposés à ce qu'ils attendent, il faut quand même effectuer cette publication parce que ces publications peuvent ensuite servir dans les méta-analyses à montrer des résultats qui sont totalement divers. Et ça, c'est relativement intéressant pour éviter les biais, effectivement, de publication. En ce qui concerne le niveau de qualité des preuves, finalement, de cette méta-analyse, il est élevé. Il est élevé. C'est vrai qu'on peut trouver qu'il y a un problème dans, le ce qu'on appelle le blinding, c'est-à-dire que le personnel, que ce soit le patient, ce qui est normal, le personnel ne peut pas être à l'aveugle du geste qu'il réalise naturellement, mais ça n'a pas grand intérêt vu que finalement c'est de la survie que l'on parle, que la survie c'est quand même très, relativement objectif.
C'est donc, quand même un outcome dur.
Voilà, c'est un outcome dur. Donc effectivement, vous voyez que dans le protocole GRAD, dans la procédure GRAD, eh bien, on a eu 4 étoiles sur cette donnée-là. Toujours en ce qui concerne les témoins formés guidés par téléphone, sur les deux autres, effectivement, outcomes, vous avez la survie à l'arrivée à l'hôpital. Il n'y a qu'une seule étude, malheureusement, qui la donne. Donc, vous voyez que c'est effectivement peu significatif, mais quand même en faveur des compressions thoraciques seules. Et il en est de même pour l'état neurologique à la sortie de l'hôpital. Deux études le rapportent. Une seule donne la méthode de mesure, qui est la mesure des catégories de performance cérébrale 1 ou 2. Malheureusement, l'autre ne le donne pas. C'est en faveur des compressions thoraciques seules, mais c'est pas significatif. Deuxième groupe de patients.
C'est toujours une formulation qui m'embête, ça. C'est en faveur, mais c'est pas significatif.
Et tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas certain qu'effectivement, dans la réalité, on se trouve réellement.
Ouais, ça, on n'a pas pu dire.
On n'a pas pu dire que. D'où la nécessité d'avoir beaucoup d'études importantes pour pouvoir, rajouter ces études-là dans la mise à jour de cette revue pour avoir des résultats qui sont plus significatifs. Pour les professionnels de secours, qui réalise cette fois des compressions thoraciques associées à de la ventilation, mais sans arrêter les compressions thoraciques, comparées à des compressions thoraciques standards, donc avec de la ventilation et interruption de la réanimation cardio-pulmonaire, que ce soit en matière de sortie vivant de l'hôpital, d'arrivée vivant à l'hôpital, que ce soit en matière d'état neurologique à la sortie de l'hôpital, eh bien, on s'aperçoit qu'il semblerait qu'il y ait une survie qui est moindre lorsque les compressions thoraciques sont continues par rapport à la réanimation cardio-pulmonaire standard, mais là aussi, c'est pas significatif et surtout, on a une seule étude qui a été rapportée, celle de Nichols en 2015. Et donc, c'est quand même pas suffisant pour donner un résultat. Au total, on s'aperçoit effectivement que la réanimation cardio-pulmonaire, donc, lorsqu'elle concerne les arrêts cardiaques extra-hospitaliers d'origine non traumatique, devrait en tout cas être réalisée de préférence avec des compressions thoraciques continues si elle est faite par le premier témoin. Et donc ça, c'est important, notamment pour les personnes qui reçoivent les appels, que ce soit dans les centres 15 ou dans les centres de traitement des alertes. Il faut que les opérateurs guident effectivement les premiers témoins et leur expliquent comment réaliser les compressions thoraciques et abandonnent la ventilation qui est difficile finalement à expliquer et qui peut entraîner, j'allais dire, une non-réalisation de la RCP parce que les gens ne veulent pas réaliser la réanimation cardio-pulmonaire. Et en ce qui concerne les compressions thoraciques réalisées par les premiers témoins, on peut dire que c'est plutôt en faveur des compressions thoraciques discontinues, mais on sait qu'on n'a pas finalement de résultats qui sont très significatifs. On peut dire malgré tout qu'il y a de nombreuses recherches futures à réaliser. D'abord parce que les résultats ne portent pas sur des énormes études, il n'y en a que très peu. Et surtout, elles le portent uniquement sur des survies qui sont à très court terme. On n'a pas d'études qui portent sur des survies à long terme, donc il faut réaliser ces revues. Il est important aussi d'analyser les effets adverses de cette réanimation, réellement les effets neurologiques, voire la qualité de vie. Aucune ne rapporte l'état de la qualité de vie des patients. Et donc ça, c'est aussi à faire. Il est aussi important de voir quels sont les effets de l'usage des défibrillateurs lorsqu'ils sont disponibles et s'ils sont utilisés précocement. Est-ce que cela induit une modification des résultats lorsque l'on associe ou pas une réanimation cardio-pulmonaire avec une RCP, une des massages continus ou discontinus? Et en fait, sur l'ensemble des 4 études, une seule étude envisageait à la fois les adultes et les enfants, et encore pas tous les enfants. Et la partie enfants était très peu importante, si bien qu'il n'y a pas pu d'analyse de groupe qui a été effectuée sur les enfants. Et donc, on ne peut pas et on ne sait pas si les compressions thoraciques seules sont réellement approprié à l'enfant. Donc encore beaucoup d'études à réaliser pour agrémenter effectivement cette revue Cochrane dans ses mises à jour futures.